Radio Prague, les informations. Bonjour, les pilotes ont protesté contre le plan de restructuration de CSA. Près de 30 vols ont été annulés à l'aéroport de Prague ce jeudi. Démission en masse des médecins hospitaliers en Slovaquie. La République tchèque pourrait envoyer une trentaine de ses médecins. Et puis le papa de la célèbre petite taupe Krtecek est mort. Près de 30 vols ont donc été annulés ce jeudi à l'aéroport de Prague en raison d'un mouvement de protestation d'une partie des pilotes de la compagnie aérienne tchèque CSA, Czech Airlines. Les pilotes sont opposés à la restructuration de la compagnie et notamment au transfert de 11 avions vers Holidays Czech Airlines, une filiale de CSA spécialisée dans les vols charter. Le président de CSA a indiqué que les pilotes en cause seront sanctionnés. L'association tchèque des pilotes de transport entend toutefois poursuivre son mouvement de protestation dans les prochains jours. La réduction de la masse salariale constitue une composante importante du plan de restructuration de la compagnie aérienne publique tchèque qui enregistre d'importantes pertes depuis plusieurs années. Par ailleurs, CSA a prévu de licencier 20% de ses 350 pilotes. Les recteurs des universités et écoles supérieures sont contre le projet de budget de l'État qui prévoit pour l'année prochaine une réduction de 5,6% du montant du budget qui leur sera alloué, soit environ 1,2 milliard de couronnes, un peu plus de 50 millions d'euros. C'est ce qu'ils ont fait savoir ce jeudi à Hradec-Králové, où était réunie la conférence tchèque des recteurs. Le ministère de l'Éducation prévoit de consacrer moins de 18% de son budget total en 2012 à l'enseignement supérieur. Le montant des frais annuels consacrés à chaque étudiant passera ainsi de 65 000 à 60 000 couronnes. En 2012, les écoles supérieures devraient fonctionner avec un budget total de près de 19 milliards de couronnes. Selon les recteurs, malgré l'augmentation régulière du nombre d'étudiants, le montant de l'argent consacré aux écoles supérieures a baissé de plus de 12% ces dernières années. Les recteurs redoutent une baisse de la qualité de l'enseignement et à terme de la compétitivité du pays. Le gouvernement se réunira exceptionnellement ce vendredi afin de discuter de l'éventuel envoi de médecins de l'armée en Slovaquie voisine. Les ministres de la Défense et de la Santé se sont entendus ce jeudi sur le fait que la République tchèque était prête à envoyer jusqu'à 30 médecins militaires en cas de besoin. Inversement, les hôpitaux tchèques ont fait savoir qu'ils ne disposaient pas d'effectifs suffisants pour aider la Slovaquie. Mécontents de leurs faibles revenus, les médecins slovaques réclament une augmentation de leur salaire. Ce jeudi 1er décembre, 1200 d'entre eux devaient démissionner. Le gouvernement a par conséquent décrété l'état d'urgence dans plusieurs hôpitaux en Slovaquie, contraignant ainsi les médecins démissionnaires à continuer à travailler. Le salaire mensuel moyen d'un jeune médecin en Slovaquie varie actuellement entre 550 et 600 euros et celui d'un spécialiste expérimenté entre 1000 et 1200 euros. Le dessinateur et auteur de films d'animation Zdeněk Miller s'est éteint à l'âge de 90 ans. Zdeněk Miller doit sa popularité mondiale notamment à la célèbre petite taupe Krtecek, aussi parfois appelée Topek en français. Il s'agit du personnage principal d'une longue série de livres et de dessins animés. La carrière de Zdeněk Miller avait commencé dans les années 1940 dans les studios de cinéma de Zlín en Moravie. Il avait ensuite collaboré, entre autres, avec le célèbre cinéaste tchèque Jiří Trnka. C'est en 1956 que Zdeněk Miller a créé le personnage de la petite taupe, omniprésente aujourd'hui encore en République tchèque, et qui allait devenir célèbre dans le monde entier grâce aux livres et aux films. Les hommes tchèques pourront probablement refuser de reconnaître leur paternité jusqu'à l'âge de 3 ans de l'enfant à compter de l'année prochaine. Selon la loi actuelle, ils doivent entreprendre cette démarche avant la fin du 6e mois suivant la naissance de l'enfant. Cette modification est prévue dans l'amendement à la loi sur la famille dont l'adoption a été recommandée ce jeudi aux députés par la commission juridique de la Chambre basse du Parlement. En juillet dernier, la Cour constitutionnelle avait déjà décidé de supprimer ce délai de 6 mois et ce jusqu'à la fin de cette année, estimant que cette loi constituer une atteinte aux droits des pères qui doutent de leur paternité et pensent qu'ils ne sont donc pas les véritables pères. On passe au sport et au basket. L'USK Prague a battu les Françaises de Bourges 73 à 69 mercredi soir à Prague à l'occasion de la 8e journée de la phase de poule de l'Euroleague féminine de basketball. Cette victoire permet à l'USK Prague, champion en titre de République tchèque, de conforter sa 4e place dans le groupe A devant Bourges. Cette place est qualificative pour les playoffs de l'Euroleague, compétition qui réunit l'élite du basket féminin européen. On termine avec un mot de météo. Comme jeudi, c'est un temps très nuageux et bruineux qui continue de régner sur la majeure partie du territoire. Ce vendredi, jour de la fête des Blancas, quelques éclaircies sont toutefois possibles dans le sud-ouest du pays. Les températures varient quant à elles entre 2 et 9 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie, plus précisément en la compagnie de Václav Richter qui vous accompagne pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Augmentation des paiements des soins hospitaliers en République tchèque. Entretien avec le réalisateur français Julien Leclerc, venu présenter son film L'Asso au 14e Festival du film français à Prague. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. La suite sera réservée à notre magazine touristique dans le cadre duquel Magdalena Rosinkova vous fera découvrir le café Louvre de Prague. C'est ce que nous avons préparé donc aujourd'hui pour vous. Merci de rester avec nous et bonne écoute. C'est ce 1er décembre qu'entre en vigueur un changement dans le système des paiements de régulation sur les soins hospitaliers en République tchèque. Les malades qui ont payé jusqu'à présent pour une journée d'hospitalisation 60 couronnes, 2,4 euros, seront désormais obligés de payer 100 couronnes, 3,8 euros. Les malades pourront désormais choisir aussi les soins médicaux hors standard à condition de payer la différence de prix entre ces soins et ceux qui sont remboursés par les caisses d'assurance maladie. Une semaine passée à l'hôpital coûtera maintenant 700 couronnes, 28 euros. Pour un mois, le malade payera 3000 couronnes, 120 euros. Ce sont déjà des sommes considérables qui risquent de compliquer notamment la vie de ceux qui souffrent de maladies chroniques. Cette augmentation de la participation des malades ne pourra pas changer cependant de façon significative la situation financière de la majorité des établissements hospitaliers tchèques. Par exemple, le budget annuel de l'hôpital universitaire de la ville de Hradec Králové est de 5 milliards de couronnes et la nouvelle mesure n'apportera à cet établissement que 10 millions. Selon le directeur de l'hôpital Roman Primula, son établissement doit se préparer en plus à une réduction considérable de ses revenus annuels.
Nous avons reçu déjà la directive selon laquelle nous allons recevoir de 200 à 250 millions de couronnes de moins. L'augmentation de la participation des malades ne compensera donc près de 20% de cette perte. Nous ne pouvons pas donc avoir pour objectif d'améliorer la qualité des soins ou d'augmenter les salaires des médecins. Notre objectif ne peut être que d'assurer le même niveau de soins que nous avons atteint au cours des dernières années.
À partir du 1er janvier prochain, les hôpitaux tchèques seront quand même obligés, très probablement, d'augmenter les salaires de l'ensemble du personnel hospitalier. C'est le résultat de l'initiative Merci, on s'en va, dans le cadre de laquelle près de 4000 médecins syndiqués tchèques ont donné leur démission au début de cette année et ont menacé de partir à l'étranger pour obtenir, entre autres, une augmentation de leur salaire. C'est ce que confirme la directrice de l'hôpital universitaire de la ville de Plzeň, Jaroslava Kumová.
L'augmentation des paiements couvrira certaines pertes de la dernière année. Cela devrait nous apporter une somme de 70 millions de couronnes. Cette année, nous sommes encore obligés de payer l'augmentation des salaires des médecins à la suite de leur initiative Merci, on s'en va. Nous financerons donc par ces nouveaux paiements l'augmentation des salaires de médecins, y compris les frais d'assurance sociale et d'assurance maladie.
Au cours de l'année prochaine, la situation financière des hôpitaux sera influencée négativement aussi par une augmentation de la TVA sur les médicaments. Selon le ministre tchèque de la Santé, Leoš Heger, l'augmentation des paiements des soins hospitaliers est une forme de participation des malades aux soins qu'ils reçoivent et aussi une façon de leur rappeler que la médecine est chère. L'opposition, qui a fermement protesté contre ces changements, promet de faire retomber les paiements des soins hospitaliers à 60 couronnes par jour si elle accède au pouvoir après les prochaines législatives. À Noël 1994, un avion d'Air France pris en otage à Alger par les terroristes du groupe islamique armé a été libéré grâce à l'assaut du GIGN, groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. La libération de plus de 200 passagers est au cœur du film L'Assaut, avec Vincent Elbaz dans le rôle principal. L'Assaut sort ce 1er décembre en salle en République tchèque. Le réalisateur Julien Leclerc l'a présenté en avant-première au 14e festival du film français qui vient de se terminer à Prague et dans cette autre ville tchèque. Julien Leclerc est au micro de Magdalena Hrozinkova.
Police spéciale de la présidence, nous faisons un contrôle des passeports.
Julien Leclerc, bonjour.
Bonjour.
La prise d'otage du vol AG Paris, puis la libération, l'évacuation des passagers à l'aéroport de Marseille a été suivie par 21 millions je crois, de téléspectateurs. Vous étiez parmi eux?
Exactement. J'avais 14 ans à l'époque. Et oui, j'ai vu le dénouement en direct à la télévision.
Comment vous est venue l'idée de porter cet événement à l'écran? Et pourquoi cet événement-là et pas un autre?
Déjà parce que ça n'avait pas été fait, donc ça c'est une bonne chose. Et après, ça part d'un livre en fait qui a été écrit par un des membres du GIGN, un des gendarmes qui est rentré dans l'avion. Et voilà, j'ai optionné le livre et je suis allé à la rencontre de ces gendarmes qui ont vécu l'événement et on a décidé d'écrire le film.
Vous, dans votre film, vous présentez l'histoire de trois points de vue différents. Donc, vous la racontez à travers trois personnages. Qui sont ces personnages? Pourriez-vous le préciser?
Alors, il y a le personnage de Thierry Pruniaud, qui est un des leaders du GIGN, qui a été le plus grièvement blessé. Il a pris 8 balles, dont 2 à l'épaule. Et une grenade dans le dos. Il est toujours vivant, il est en retraite en province, en France. C'était intéressant par rapport à... Évidemment, il y a 30 héros qui rentrent dans l'avion, mais il fallait en suivre un essentiellement. Et de montrer un peu comment vivent ces gens. Pourquoi c'était de mettre un visage sous la cagoule. Un point de vue politique. On suit une jeune énarque qui va suivre parce que pour comprendre vraiment... En fait, l'idée de départ, c'était vraiment ces images fortes où on voit ces trois passerelles qui viennent s'amarrer avec cet avion. C'était de comprendre pourquoi, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé depuis 48 heures en France, en Algérie, pour lancer un assaut, pour aller libérer ces gens. Et évidemment, le troisième point de vue terroriste, pour comprendre l'adversaire qui a mis sous pression cet avion.
Était-il difficile de rester neutre au cours du tournage?
C'était, même si j'ai eu l'accord du GIGN, du soutien de l'armée, c'est ce que je leur ai dit la première fois, ça sera pas une bande démo pour l'armée, ça sera pas un film promo, c'est pas... Et heureusement, c'est ce qui leur a plu, parce que il fallait être le plus juste et le plus objectif possible par rapport à l'événement et de pas prendre parti. Il n'y a même pas besoin, c'est tellement flagrant que je ne vais pas insister, moi, dans mon film, avec ma mise en scène, pour dire que les terroristes, c'est les méchants, ça coule de source.
Mmh. Et en quelle mesure vous êtes inspiré du livre? Vous êtes parti du livre?
En fait, le livre, je l'ai lu qu'une seule fois. Le travail avec Simon Moutaïrou, mon co-scénariste, ça a été, comme vous, un travail de journaliste où pendant 6-8 mois, on est parti à la rencontre de tous les gens qui ont vécu l'événement en direct, que ce soit des otages, que ce soit les membres du GIGN, que ce soit le commandant de bord.
Et quel regard portait-il au moment où vous les avez rencontrés sur l'événement? Était-il capable?
Parfois c'était compliqué. C'était plus facile côté GIGN puisque c'est une troupe et c'est une cellule assez particulière où ils restent groupés. C'était plus compliqué avec le commandant de bord, c'était plus compliqué avec certains otages, parce que c'est une expérience traumatisante, 54 heures de prise d'otage avec 3 otages qui ont été tués à Alger, c'est difficile. Je leur ai expliqué le film que je voulais faire et c'est pour ça qu'ils sont tous venus. Personne ne l'a pris comme une thérapie, personne ne l'a pris... Mais ils étaient tous contents et c'était vachement poignant parce que sur le tournage, il y avait des gens qui se sont croisés quelques secondes comme ça sous un enfer de feu. Ils se connaissent pas, ils se sont jamais rencontrés. Et de se retrouver autour d'une caméra avec un acteur, avec un réalisateur, avec un... Et c'était vachement, vachement touchant. Ouais.
Le réalisateur Julien Leclerc sera l'invité de l'une de nos prochaines rubriques culturelles. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Dans le magazine touristique, nous vous proposons, dans le cadre de notre série de reportages sur les cafés pragois, de découvrir le Café Louvre, un des cafés-restaurants les plus recherchés de la capitale, situé avenue Národní. Magdalena Hruzinková est le propriétaire du Café Louvre, Silvio Spor, vous serviront de guide.
Vous avez dit la République tchèque ? Voyagez donc.
Bonjour, aujourd'hui Radio Prague vous emmène donc au Café Louvre, fondé en 1902 par un certain Antonin Pelt dans l'immeuble numéro 22 de l'avenue Národní, à quelques dizaines de mètres d'un autre café emblématique de la capitale et dont nous avons récemment parlé sur Radio Prague, du Café Slavia. Le Café Louvre, un des plus splendides et des plus spacieux à Prague, a été aménagé comme cela était habituel à l'époque au premier étage avec un magasin au rez-de-chaussée. Il est devenu le siège du club de billard de Prague. C'est ici qu'ont été fondées au cours de la première moitié du XXe siècle plusieurs associations culturelles et scientifiques comme le Pen Club tchécoslovaque ou le Cercle linguistique de Prague. Albert Einstein, Franz Kafka, Karel Josef Čapek, Jan Zrzavi, plusieurs écrivains, psychologues et philosophes allemands ont figuré parmi les clients fidèles de ce café Art Nouveau. Le Louvre était aussi connu des Pragois pour avoir un serveur noir qui était pourtant de nationalité tchèque et qui accueillait les clients à l'entrée. Mais ceci n'est pas la seule spécificité du Café Louvre. On écoute Silvio Spor, l'actuel propriétaire du Café Louvre.
Le Café Louvre a été assez particulier de plusieurs points de vue. C'était le premier café électrifié à Prague. C'est aussi le premier café qui a ouvert une partie réservée aux femmes. Avant cela, les femmes n'avaient généralement pas accès au café. Avec ses 800 places, le Louvre était, à une certaine époque, le plus grand café de tout l'Empire austro-hongrois. Ce café était synonyme de progrès. Il y avait toujours de la musique, un large choix de journaux et de magazines. Le café était ouvert du petit matin jusqu'à minuit, et on y servait des repas chauds à tout moment de la journée. Chaque café de ce type était aussi un lieu de distraction. Au Louvre, on jouait beaucoup au billard. Nous avons conservé cette tradition. En plus de cela, nous disposons de tables d'échecs, nous prêtons des cartes et autres jeux de société.
Le Café Louvre est fermé après le putsch communiste de 1948 dans des conditions assez dramatiques. Silvio Spor.
Le Café Louvre a été à l'époque le symbole de la vie bourgeoise. Sa fermeture a été accompagnée de violences. On a jeté le mobilier par la fenêtre, ce qui a été acclamé par la foule rassemblée sur l'avenue Národní. Pour comprendre cela, il faut se rendre compte qu'entre 1902 et 1948, donc pendant les 46 années que le café a été ouvert, beaucoup de choses ont changé. Les propriétaires, le style, l'ambiance du café. Je pense qu'en effet, pendant les dernières années de son existence, le Louvre était un café plutôt allemand, fréquenté par la haute société et qui se prêtait aux jeux de hasard. La fermeture du café en 1948 a été une sorte de châtiment.
Depuis 1948 et jusqu'à la chute du régime communiste, les espaces de l'ancien Café Louvre ont servi de bureaux. Silvio Spor les a rachetés en 1991 avec l'intention d'y faire revivre le Café Louvre. Il se souvient.
Il n'y avait rien du tout, que des bureaux, des lampes fluorescentes au plafond. Chaque fenêtre de la grande salle du café représentait un bureau. Tous les attributs du café de l'époque avaient disparu. C'était une vue abominable. Sous le communisme, l'architecture de cet espace a complètement été modifiée. Au début du XXe siècle, il y avait dans tout le bâtiment une seule grande cuisine. Elle n'était pas au premier étage, là où elle se trouve aujourd'hui. Les repas ont été transportés au café par ascenseur. En 1991, nous étions obligés de placer la cuisine, ainsi que les lieux de stockage, des bureaux et des vestiaires pour le personnel au même étage que le café. Ce qui a nécessité des travaux importants, une rénovation complète en fait de ces lieux. Par conséquent, le café est plus petit qu'il ne l'était à l'époque.
Le Café Louvre accueille chaque jour 1 millier de clients, dont 60% sont des femmes. Le café, le restaurant non-fumeur, la terrasse d'été ainsi que la petite galerie Louvre au rez-de-chaussée disposent d'environ 300 places. Sylvie Hochepor a réussi à restituer au Café Louvre son charme d'antan. Ton pastel, grandes fenêtres arrondies dont on sur l'avenue Narodny, miroir, stuc, mobilier fabriqué dans le style Art Nouveau. À l'entrée, vous verrez une fontaine originale, un aquarium avec des tortues et une grande carte interactive qui vous renseignera sur tous les cafés qui existaient au tournant des 19e et 20e siècles à Prague. Si vous venez au Louvre en ce mois de décembre, vous y verrez également un grand sapin décoré chaque année un peu différemment et de manière originale. Ne manquez pas non plus de goûter une de nombreuses spécialités de ce café-restaurant, que ce soit le roulé d'épinards ou le strudel à la sauce vanille ou aux prunes et pavots ou encore le punch. Même si le café a été à l'époque un lieu de concert, aujourd'hui vous n'y entendrez pas de musique. Sylvie Hochepor souhaitant que le Café Louvre soit un espace de calme et de communication. Vous trouverez toutes les informations supplémentaires sur le café sur son site internet www.cafelouvre.cz.
C'était donc notre magazine touristique préparé et présenté par Magdalena Hruzinková. Merci à vous tous qui restez fidèles aux émissions de Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.